Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, dans ce temps de Pâques, comme je l'ai dit au début de cette messe, alors que nous jouissons encore des apparitions du Christ, que nous voulons entrer pour essayer petitement à notre mesure de comprendre ce que veut dire la résurrection, le Seigneur déjà nous prépare, à travers le discours qu'il fait à ses disciples, c'est-à-dire à nous-mêmes, il nous prépare à son départ et il nous prépare à sa gloire. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile de comprendre pour nous. Voyons justement de quoi s'agit-il dans cette gloire, pour ensuite voir comment nous allons y pénétrer, c'est par les commandements qu'il nous laisse. Tout d'abord, voyons ce qu'est la gloire de Dieu. C'est un mot qui revient souvent au début de chaque messe, sauf dans les temps de pénitence où on s'en prive. Nous chantons la gloire de Dieu, Gloria. Nous parlons souvent de sa gloire. La prière du Notre Père commence par la sanctification du nom de Dieu, sa gloire. La gloire, c'est l'être même de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est difficile à représenter. Ceux qui veulent écrire des icônes commencent souvent, sauf exception, par représenter un fond d'or pour représenter le Christ notre Seigneur ou le Père qui donne au Christ l'Esprit. Eh bien, ici nous avons à Saint-Roch une gloire dans la chapelle de la Vierge, c'est-à-dire la présence de Dieu avec des rayons d'or qui s'en partent. Une autre manière d'essayer de représenter la gloire de Dieu. C'est petit, mais c'est à notre mesure. Vous imaginez bien, tout ce que les chrétiens ont fait depuis 2000 ans était fait pour dire la gloire de Dieu, pour dire ce qu'il est. Les bâtiments qui sont ici, la musique que nous avons composée, les orgues que nous avons construites, bref, tout ce que nous faisons et toute notre liturgie essaye de dire quelque chose de la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est sa divinité, c'est son être même, c'est sa magnificence. Alors maintenant, mes bien chers frères, après vous avoir ainsi ébloui de la gloire de Dieu, me direz-vous, quel rapport avec nous? Comment pouvons-nous, moi pauvre petit homme, comment puis-je glorifier Dieu, lui qui est éternel, tout-puissant, qui n'a besoin de rien ni de personne? C'est un être nécessaire. Eh bien, justement, c'est ça la merveille que le Seigneur est en train de préparer pour ses disciples. Il leur fait comprendre, grâce au Christ, que nous allons entrer dans cette gloire et en participer. Le Christ dit qu'il va être glorifié alors même qu'il s'agit d'un repas peu de temps avant qu'il soit tué. C'est-à-dire que la gloire dont je viens de parler, il ne faut enlever aucun mot, aucune image, elle va passer par la croix. Elle va passer à travers l'ignominie de la croix, non seulement la mort qui est toujours quelque chose de mauvais, et en plus à travers une mort ignominieuse, celle de la croix. Comment le Seigneur peut-il dire « Je m'en vais et je vais bientôt être glorifié » C'est parce que lui, il sait et il voit par-delà la mort qu'il va subir, par-delà la douleur qu'il va ressentir, par-delà la tristesse de son cœur et de ses disciples et de sa mère. Il sait ce qu'il y a par-delà cette mort, car ce n'est pas une illusion, c'est la réalité de la gloire qui l'attend. En mourant, il sait qu'il va être victorieux, voilà pourquoi nous sommes les contemplateurs de la victoire de la croix. Il sait qu'en mourant, il va détruire la mort, il va passer à travers cette mort, la briser à tout jamais, ouvrir un passage pour que la gloire de Dieu nous soit accessible. Jusque-là, les hommes mouraient, les justes comme les bons, et personne n'arrivait à voir Dieu en raison de notre péché. Voilà que le Seigneur le sait, il va glorifier, il va être glorifié par son Père dans cette mort, en la brisant, en la détruisant pour toujours, en faisant un passage non plus vers le néant, mais vers l'être même de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, écrivait saint Irénée de Lyon, qui avait bien compris que le but du Seigneur était de nous sauver, c'est-à-dire non pas de décider que nous sommes sauvés, mais d'ouvrir dans notre propre vie un passage vers la vie éternelle. Voilà, mes bien chers frères, la gloire de Dieu dont il s'agit aujourd'hui celle dont le Christ a été glorifié et celle dont nous voulons participer en la rappelant sans cesse à chacune de nos liturgies. Alors comment passer, puisque naturellement nous allons passer par cette vie et par la mort, comment passer surnaturellement dans ce passage ouvert vers la vie ? C'est très simple. Le Seigneur nous laisse, nous dit-il, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous connaissez bien l'Écriture, et je n'en doute pas, vous pourriez immédiatement me dire, mais, ou dire au Seigneur, puisque c'est lui qui le dit, mais est-il si nouveau que cela, ce commandement ? Non. Lui-même l'a dit d'ailleurs au docteur de la loi qui vient le trouver. Quel est le plus grand des commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà résumé toute la loi et les prophètes. Si ce sont là la loi et les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament résumé. Il n'y a là rien de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce commandement de la charité ? Eh bien, ce qui est nouveau, c'est le Christ. C'est le Christ qui est neuf, parce que le Christ est éternel et il est éternellement présent. La nouveauté de ce commandement, c'est comme. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, dimanche après dimanche, nous méditons l'Évangile, nous regardons la vie du Christ, nous essayons de nous conformer, d'être configurés au Christ lui-même pour être de cette nouveauté véritable, non pas seulement pour faire quelques actes bons, mais pour réaliser en nous le bien qui est Dieu lui-même. La charité n'est pas une activité qui signerait les chrétiens, elle est l'être même des chrétiens, car elle est l'être même de Dieu. Oui, la charité est la réalité de Dieu présent parmi nous. Cette charité qui doit se répandre à partir de l'autel. La paix qui vient de Dieu vient de l'autel. Elle ne vient pas, nous ne donnons pas la paix parce que on est gentil et qu'il faut donner la paix à son voisin ou à sa voisine. C'est ridicule. Ce n'est pas le but de la paix qui se transmet ici. La paix qui vient ici, elle vient de l'autel, elle vient du Christ présent lui-même qui se donne à nous, qui se transmet et qui va constituer cette fraternité. Car évidemment, si la charité c'est le Christ lui-même, Dieu présent parmi nous, il se réalise dans la paix que nous réalisons, par ordre d'abord. C'est pourquoi le prêtre donne la paix au diacre, qui le donne aux servants ou aux servantes de l'assemblée qui le portent. C'est qu'elle doit se répandre, cette paix, comme elle doit se répandre par ordre, d'abord dans votre famille, puis dans votre paroisse, puis chez vos amis, puis dans votre travail. Bref, cette paix du Christ devient une réalité actualisée par chacun de vos actes. Ce commandement nouveau qui nous est laissé n'est pas seulement une consigne morale, c'est plutôt la conséquence, c'est le chemin de vie, la parole qui va nous donner d'entrer vraiment dans la gloire de Dieu, de passer par ce passage ineffable et surnaturel que le Christ a ouvert dans la mort. À chaque fois que vous commettrez un acte bon, vous vous appesantirez de la présence de Dieu dans votre être. À chaque fois que vous réaliserez le bien, vous réalisez la vie éternelle en vous, celle dont vous allez vivre éternellement, et j'espère que nos âmes pèseront lourd. Voilà le message que les chrétiens ont apporté au monde. Nous ne savons pas seulement que Dieu est, qu'il est bon, qu'il nous a sauvés, nous savons comment nous y configurer afin vraiment de vivre de lui. Alors, mes bien chers frères, que la charité soit notre préoccupation, comme elle a été la préoccupation de l'Église de tous les temps. C'est l'Église qui a créé des hôpitaux, c'est l'Église qui a créé des orphelinats, c'est l'Église qui a créé le soin des malades, des pauvres, des indigents, des orphelins. Ne nous laissons pas voler cette charité, alors que aujourd'hui même, notre monde appesanti s'empêche de voir le bien, en ne reconnaissant même pas l'existence de la nature humaine dans un homme, en n'y reconnaissant que son utilité ou son profit ou son plaisir. Nous voulons dire que le bien, c'est ce qui est, et une personne humaine est bonne parce qu'elle existe, tout simplement. Je fais évidemment allusion à Vincent Lambert et à cette incroyable décision juridique qui voudrait nous donner non pas un passage vers la vie, mais un passage vers la mort. Ces décisions-là ne sont pas des décisions qui vont vers la gloire de Dieu, mais vers le néant de l'ennemi de la nature humaine, celui qui déteste la vie, celui qui déteste l'homme depuis toujours. Nous sommes les coopérateurs de la vérité et du bien, afin, nous aussi, de vivre de cette gloire. Ainsi soit-il.